Donc ce que je propose, c'est un travail de recherche en cours, mais néanmoins suffisamment avancé, sur les questions de développement durable, avec aujourd'hui, à la demande de Jérôme, une réflexion en cours sur les questions d'acceptabilité sociale, donc le système générique, jusqu'ici tout va bien. Mais plus précisément, vous allez le comprendre plutôt sous l'angle de la manière dont les thèmes habitants sont traversés, travaillés, interprétés, mis en scène sur les questions, sur des thèmes relatifs au développement durable. Et dans ce lien, dans cette maïeutique-là, entre l'habitant et le développement durable, du coup, quelle est la place du concept, de la notion d'acceptabilité, et comment on peut l'interroger à cette aune ou à cette lumière-là, pour nourrir les échanges que vous avez commencé à avoir depuis ce matin, et en tout cas, je suis désolé, vous pouvez faire. Alors, c'est une intervention à une voix, mais la préparation est à deux, avec Daphné, qui est là. Doctorante et chargée de projet à l'UNIT, qui travaille très ardemment, intensément sur ce projet. Alors, l'introduction va viser surtout à préciser l'angle d'entrée autour de l'acceptabilité, de là où on est parti, et présenter la démarche d'ensemble. Parce que, en fait, sur les questions habitantes, vu que c'est le mot-clé qui nous permet d'embrayer, il y a une littérature foisonnante et autant préciser de là où on part pour livrer quelques éléments de résultats intermédiaires de la démarche d'ensemble. Alors, premier point de l'introduction, on sera en quatre points pour préciser un peu le départ. Le premier point de départ, c'est ce qu'on a interprété, compris, de l'appel et du texte du séminaire, et notamment de cette séance-là. Les attendus que l'on a lus là-dedans, il s'agirait d'interroger la notion d'acceptabilité et ses usages pour savoir s'ils peuvent permettre, d'une part, de donner sens aux difficultés concrètes que rencontre le développement durable, et d'autre part, de mieux comprendre la nature des relations entre la recherche et le champ du développement durable. Donc c'est bien au croisement des deux, deuxième point de départ, que en fait se situe un programme de recherche qui s'appelle Imaginaires environnementaux et un pensée socio-démocratique de la vie durable, qui est un programme de recherche financé par l'ADEME sur deux ans, 2012-2013. C'est de là que l'on tire les éléments de corpus aujourd'hui, donc j'y reviendrai, mais je le présente très rapidement. Ce programme de recherche réunit 13 chercheurs et 5 agences d'urbanisme. Et il a une date programmée de fin en septembre prochain, donc on est vraiment plutôt vers la fin, parce que c'était sur deux ans, avec un séminaire international de restitution sur la question des approches socioculturelles du développement durable. En fait, ce programme est à la croisée, justement, des deux attendus. C'est-à-dire donner sens aux difficultés rencontrées par le développement durable dans le cadre d'une de ces étapes, la démarche du programme, une des étapes de la démarche qui est en fait qui s'appuie sur des ateliers territoriaux d'échange entre acteurs et chercheurs, donc entre en l'occurrence les agences d'urbanisme et le groupement de chercheurs, en vue d'éclairer quelques impensés du développement durable, mais surtout des arrière-plans à la fois symboliques, axiologique et épistémologique. Je préfère le dire tout de suite quel était le contenu du programme. Alors, symbolique, c'est la question des mythes fondateurs qui ne sont pas discutés toujours lorsqu'on parle de durabilité. C'est pas comme ça qu'on pose des questions et qu'on discute avec les agences d'urbanisme, mais elles s'y prêtent un peu volontiers, plutôt vers la fin de l'atelier qu'au début, mais néanmoins, on arrive à échanger autour de ces éléments d'ordre symbolique. Autour des arrière-plans axiologiques, c'est les systèmes de valeurs. Quels sont les systèmes de valeurs qui gouvernent aujourd'hui le foisonnement des discours et des pensées, entre guillemets, de la durabilité. Et enfin, arrière-plan épistémologique, puisque se jouent aussi de nouvelles formes de savoir. Et c'est là où la démarche qui se veut plus dialogique, en tout cas des séminaires d'échange, des ateliers un peu participatifs, place aussi au cœur position du chercheur et grosso modo pluralisation des formes de l'expertise, puisque les agences d'urbanisme, comme la totalité des acteurs, ont une expertise sur les sujets de l'urbain, c'était appliqué à la ville. Alors il y a deux étapes de ce programme qui vont nourrir la présentation. Les ateliers, j'en ai parlé très rapidement, il y en a eu 5, à Lyon, à Béthune, à Toulouse, à Montbéliard et à la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Le dernier a eu lieu au mois de décembre, voilà. Sur 5 thèmes d'impensée, j'y reviendrai, via une publication annoncée pour la rentrée prochaine. Et un deuxième point d'appui, c'est une analyse épistémologique qui est en cours d'achèvement. Une quarantaine de documents, d'ouvrages, articles scientifiques et documents, on va dire, de l'outillage territorial, agenda 21, charte, tableau de bord, indicateur, analyse épistémologique sur la manière dont les savoirs sont mobilisés. Quels sont les points d'appui relatifs au champ de connaissances et au type de légitimation par les savoirs dans ces ouvrages-là, dans ces types de documents. À ce jour, le travail, on est surtout, c'est la toute dernière étape en tout cas de cette analyse documentaire, il y a un travail d'atelier d'étudiants de master en urbanisme et en architecture sur tous les documents relatifs au Grand Paris, Grand Paris, etc., et tous les 2030 et 2040, voir comment le développement durable est saisi, quels en sont les arrière-plans et éventuellement les impensés. Bon. Alors, l'objectif de la présentation est donc, premier élément de posture, de rendre compte de la question de l'acceptabilité, même si on verra que le terme n'est pas toujours utilisé dans les ateliers territoriaux, mais de l'intérieur. C'est la manière dont ce terme, évoqué ou pas, à notre avis, ce n'est pas ça l'important, parce qu'on est sur des arrière-plans, comment la question du social et de rendre acceptable, même si le terme d'acceptabilité sociale n'est pas toujours employé, traverse de l'intérieur des échanges organisés méthodiquement. Ce sont des ateliers territoriaux, donc des échanges entre différents types de production de sens et de connaissances. En l'occurrence, d'abord des acteurs territoriaux, les agences d'urbanisme et leur système d'acteurs, il n'y a pas que les agences d'urbanisme lors des ateliers, elles ont réuni entre 20 et 30 acteurs, entre 15 et 30 acteurs à chaque fois, et les chercheurs de groupe. Donc premier élément, c'est de l'intérieur. Deuxième élément, la thèse qui sera défendue aujourd'hui, mais pour, selon toute vraisemblance, être discutée, ce que j'espère, en fait, la thèse qui sera défendue s'appuiera moins sur l'usage et donc la circulation même du terme d'acceptabilité sociale. J'en ai parlé il y a 15 secondes, le terme même n'a pas toujours été employé. Un rapide recensement montre qu'il a été utilisé 5 fois en 5 ateliers, ce qui fait 16 heures de palabres. Je revendique le terme de palabres. Je pourrais dire que c'est le terme en soi qui est métastructurant des discours, hein, mais il apparaît modestement. Donc c'est pas tant sur l'usage ou la circulation du terme que sur l'analyse des positions, des postures d'acteurs et de chercheurs, particulièrement, et j'y reviens parce que c'est l'objet de la thèse défendue aujourd'hui, autour du social. Qu'est-ce qui fait social, comment il se construit, et du coup comment on s'adresse politiquement à ce social. Donc, c'est moins l'usage que la position, et donc sur un sujet qui nous semble en fait être le cadre normatif de l'acceptabilité, même si peu employée, mais qui est dans toutes les bouches du ministère de l'écologie. De quelle acception du social et de sa construction politique s'agit-il? Quelles sont les grandes conceptions en jeu de l'habitant dans les discours entendus et dans les documents analysés, puisque le principal impensé du non-usage, vous me dites, hein, si vous êtes perdu, je recommencerai, hein, le principal impensé du non-usage du terme d'acceptabilité sociale, c'est l'habitant, fondamentalement. Donc il y a bien quelque chose qui se joue autour de un indicible, rendre acceptable, ça n'est pas employé, mais néanmoins, en arrière-plan, une construction du social qui néanmoins maintient l'habitant dans une certaine exception, qui n'est pas très dialogique et participative. Vous l'aurez compris, mais j'y reviendrai assez longuement. En fait, force est de constater, ce sera précisément la thèse, que même si le terme n'a que peu utilité, été utilisé dans les discours, les arrière-plans sont quant à eux souvent encore bien présents, et toujours traversés d'un certain nombre de grands partages, de grandes dualités, de la modernité. Les postures sont bien toujours fort distanciées vis-à-vis de l'habitant. Fondamentalement, si on devait résumer, utiliser ou non, en tout cas ces arrière-plans, l'acceptabilité sociale traduirait le mythe de la modernité, pour faire vite. avec tout ce qu'il charrie aussi, de mise à distance, de construction du politique, de rapport au sujet, etc., et du singulier, de sa reconnaissance. Etc. Bref, la dynamique insufflée par le terme serait en fait un recyclage parmi d'autres. En l'occurrence, dans le cadre de l'instrumentalisation du social par le développement durable, c'est là où le développement durable permet par moment d'abriter quelques non-dits ou quelques impensés, mais le train pris, c'est bien de parler au nom du développement durable du social, mais en recyclant quand même quelques constructions politiques de l'habitant. Voilà. Et deux, les atours peut-être plus fondamentaux du mythe de l'acceptabilité sociale seraient bien le peu de cas qui est fait de l'habitant et de son habité dans les processus participatifs et plus largement sur les scènes dialogiques. Ce qui appelle bien à traiter des acceptions du social, de sa construction politique et de l'habitant dedans. Dernière précision avant d'y aller. Il serait nécessaire que l'introduction soit peut-être un peu longue pour poser les bases, qu'on s'entende un peu sur de là où on part. De là où je pars, moi, personnellement, c'est le dernier point. Il se trouve que j'ai travaillé sur les thèmes d'acceptabilité sociale entre 2000 et 2003 sur, mon hobby de l'époque, sur les conflits d'environnement, conflits d'aménagement pour causes environnementales, notamment les grands équipements aéroportuaires, ferroviaires, lignes de haute tension, etc. Et on avait travaillé, je me souviens déjà par le ministère, autour de l'acceptabilité sociale d'autres formes de production scientifique. Et notamment, puisque le terme est employé ce matin, du consentement, les fameux consentements à payer de l'économie de l'environnement. Comment, en évaluant un coût social, on peut éventuellement s'adresser autrement au social et le représenter différemment dans une opération de recherche. Le but était à l'époque de revenir sur la démarche avec les gens eux-mêmes, de voir ce qu'ils pensaient des résultats et comment ils se trouvaient ou pas représentés et éventuellement comment ils auraient pu s'impliquer autrement que par un dispositif d'entrée. Bref, c'est autour des cosmopolitiques, en fait, mon point de départ de la question qui m'occupe aujourd'hui, mais c'est plutôt des arènes assez tendues, des scènes de discorde, des mésententes, des disputes, des conflits ont été la manière dont moi j'ai commencé à comprendre le terme d'acceptabilité sociale. Il fallait rendre acceptable quelque chose. Il y a une asymétrie des pouvoirs, il y a des jeux d'influence, il y a du politiquement lourd derrière ces choses-là. En tout cas, c'est comme ça que moi je suis entré dans le thème générique de la journée. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est trois temps assez rapides. Les qualifications de l'habitant et du développement durable, parce que les deux, en fait, sont étroitement liés. D'où partons-nous? Et là, il s'agira de revenir un peu sur des éléments de connaissance sur l'habitant dans la démocratie participative et aussi partir de l'analyse documentaire sur les qualifications du développement durable, voir ce que ça sous-tend et quels sont les partages de la modernité éventuellement que véhiculent ces corpus-là. Dans un deuxième temps, un focus sur les ateliers territoriaux en eux-mêmes, de l'intérieur, comment ils ont produit éventuellement du sens, autour du développement durable, mais aussi les différentes figures de l'habitant et du social qui se sont jouées dans le lien entre acteurs et chercheurs. Et un dernier temps, conclusif, sur du coup ce que ça peut ouvrir, à mon avis tout est ouvert là, mais comme la conclusion ça peut être plus ouverte que le reste, sur la question des sciences, et du coup de la position des chercheurs ou de la recherche par rapport à ce terme d'acceptabilité, puisqu'il n'est pas neutre scientifiquement, il y aurait des sociologues qui devraient aider les pouvoirs publics à rendre acceptable un certain nombre de choses. Là, sur les ateliers, on était bien dans foutu, on acceptait quelque chose sur un joli franc. Ça n'était pas le but. Alors, du coup, d'où partons-nous en termes de qualification de l'habitant et de développement durable? Je fais assez vite parce que sur les questions, il y a deux points d'appui méthodologiques, donc deux éléments un peu de résultats que je vous livre, mais que vous connaissez aussi bien, voire mieux que moi. Tout d'abord, l'habitant dans la participation. Je choque personne en disant que l'habitant, sur les scènes dites participatives un peu instituées, est légèrement disqualifié, que grosso modo il est toujours qualifié, d'où la disqualification, en miroir de quelque chose. Il y aurait le riverain dans la bande de 300 à 500 mètres. Il est qualifié en miroir du risque juridique. Donc le concerné, lui, il n'est pas éligible au plan d'accompagnement de projet, à compensation. Donc le riverain est une figure moderne de l'habitant autorisé à s'exprimer. On aurait l'usager. Je sais que je suis dans une école d'archi, je vais me faire lyncher, c'est pas grave. L'usager, lui, il serait en miroir d'une habitude professionnelle. En fait, c'est un individu fonctionnel qui consomme de l'espace, qui est un peu tronqué dans sa capacité de rêver, de croire, d'imaginer, de jouer un peu éventuellement avec le dispositif matériel que lui offre la ville. Donc, l'usager est aussi une autre, pour moi, disqualification de ce que serait l'habité qui se jouerait derrière l'habitant. Enfin, troisième, mais il y en a des centaines. Centaines, ça peut déjà aller, on va le dire. Le profane, qui lui, alors là, c'est encore plus ostensible, est disqualifié parce qu'il est bête. Enfin, je caricature. Mais par rapport au sacré du scientifique, il a quelques compétences, il ne faut pas qu'il parle trop longtemps. Alors, on a une qualification qui est souvent en miroir. Moi, je dis ça sans aucun confort ni volonté de faire genre. Étant parti des conflits d'environnement et d'aménagement, ayant travaillé assez longuement sur la question de l'adaptation perspective, ça croise plusieurs observations in vivo, en fait, ces choses-là, et d'autres collègues, bien plus intelligents que moi, le racontent encore mieux. Donc, il y a aussi des empreintes derrière ça. Donc, il y a des qualifications toujours en miroir d'un risque juridique, d'une habitude professionnelle, d'un savoir autorisé, qui perpétue beaucoup de grands partages, en fait. C'est ça, à mon avis, le plus important, c'est que l'habitant, il est rabattu dans beaucoup de découpages, c'est l'organisation de la participation officielle. La participation officielle est forcément sur un temps court, elle est forcément dans un découpage spatial, bref, elle perpétue les espaces-temps de la modernité. Voilà. Il y a tout un tas de disqualifications de l'habitant par d'autres termes qui visent en fait à le localiser dans une maille. Et finalement, l'habitant, si tant est que le terme soit utilisé, c'est un expert de l'immédiat et du local, pour faire vite. D'accord ? Il a des champs d'aptitude et de compétences et de savoir, mais ce qui concerne l'abribus et la fréquence de passage du bus, je caricature à peine, est plutôt du champ de l'immédiat, c'est-à-dire qu'il aurait éventuellement des savoirs ordinaires, mais qui permettent, au nom de l'ordinaire, d'appréhender l'immédiat et de nourrir avantageusement éventuellement une proposition, mais qui s'adresserait à la contemporanéité du projet. Il est expert de l'immédiat et du local. En général, l'habitant, il n'est pas beaucoup convié à s'exprimer sur le devenir de la ville à 40 ans, sur les imaginaires éventuellement profanes d'un projet d'architecture, sur ses propres symboles et croyances, etc. Ça, c'est le premier élément de corpus. Deuxième élément de corpus, l'analyse documentaire, épistémologique. De quelle définition, quelle qualification du développement durable? Là aussi, j'enfonce les portes ouvertes, et d'autres que moi sont bien plus armés là-dessus. Le développement durable, dans l'analyse documentaire, je dis c'est une quarantaine de documents, hein, pour moitié, c'est simple à faire, hein, pour moitié documents scientifiques, pour une autre moitié documents de l'instrumentation territoriale, et puis je vous dis les 2030, 2040 et 2050 qui s'annoncent grâce aux ateliers d'étudiants. Le développement durable est perçu comme un phénomène dans tous les cas de figure qui s'impose aux acteurs, dans sa définition même. C'est-à-dire que dans tous les documents, le développement durable est donné par une définition qui vient de l'extérieur. Alors on a bien évidemment, le rapport Wendland, le Grenelle, le sommet de Rio, plutôt l'échelle de l'international, mais en aucun cas une discussion vive de la définition, elle est importée, elle s'impose. Deux, le développement durable est toujours environnementalisé. C'est toujours une construction environnementale d'un monde ou de mondes communs, et surtout par l'environnementalisation technicisée et institutionnalisée. On retrouve par exemple sur l'ensemble des documents les mêmes découpages thématiques, récurrents, autour du climat et de l'énergie, autour des ressources et de la biodiversité, autour de la cohésion sociale et territoriale, autour des développements économiques, de l'emploi et de la consommation, autour de la santé, des risques et du bien-être, et aussi un peu de mobilité. On a en fait là, deuxième élément, le premier c'était que c'était un terme qui s'imposait aux acteurs, le deuxième, c'est qu'en fait, il s'inscrit pleinement, il est un pur produit de la construction thématique et sectorielle des politiques publiques. Donc il est fort institutionnalisé et très technicisé par l'environnement ou une certaine exception de l'environnement. Troisième élément de figure, le développement durable est, mais c'est au croisement des deux précédents, hein, le développement durable est dépolitisé. En étant de plus en plus technicisé, en témoigne, l'émergence des thématiques du changement climatique et de l'énergie, qui finalement, et ça on l'a vu dans les ateliers, ont pris le relais de la mollesse du développement durable. Ça a permis de retechniciser le propos, le discours, notamment sous l'angle énergétique, parce que le développement durable, en tout cas pour les ateliers, moi ça m'a assez frappé, était en voie de disqualification ou en tout cas de mésusage. Le développement durable avait plutôt sa vie derrière lui. Du coup, le changement climatique, et les termes énergétiques ont permis un retour remarqué de l'approche technique et du coup un redoublement, une forme de dépolitisation du développement durable. C'est le troisième trait caractéristique de l'analyse documentaire. Et dernier, mais il y en avait plein d'autres, hein, l'habitant là-dedans, ben, vous aurez compris que l'habitant est majoritairement une cible justificatoire, lointaine, sans véritable épreuve de terrain dans la démonstration scientifique ou dans la production opérationnelle, ni dénoncée épistémologique. Ça, j'insiste particulièrement là-dessus, c'est-à-dire que dans les documents de recherche sur le développement durable, je pourrais vous fournir la liste, parce qu'elle n'est pas exhaustive, mais assez éclectique. Il n'y a véritablement aucun énoncé épistémologique quant aux positions de recherche, ça c'est une chose, ou encore aux énoncés axiologiques quant aux positions des professionnels qui s'expriment au nom du développement durable. Donc c'est l'habitant et la pierre de touche de la dépolitisation qui croise en fait l'impératif, ce qui s'impose aux acteurs, et deux, par l'environnementalisation, la question technique. Qu'est-ce à dire, si on devait résumer, avant de passer aux ateliers? Eh bien, le développement durable, en fait, perpétue les découpages espace-temps que l'on avait déjà sur la question du temps. Les découpages espace-temps qui font le lit de l'aplatissement habitant. Je reprends l'exemple de l'urgence du climat. L'urgence du climat impose l'accélération et donc le peu de temps donné au débat démocratique. Se hâter lentement n'est pas le mot d'ordre aujourd'hui, lorsque, par le changement climatique, il s'agirait d'intervenir un peu plus rapidement que la mollesse du développement durable ou les retards pris par la participation rendue nécessaire par des codes de loi ou des choses comme ça. Jusqu'ici, donc, rien de nouveau véritablement. La démocratie participative, a priori, n'a pas grand-chose à attendre ou n'a pas attendu grand-chose du développement durable. Et le social de l'acceptabilité est bien à lire dans les espaces-temps de la gouvernementalité. La conception du social qui se jouerait éventuellement derrière l'acceptabilité, si, puisque l'acceptabilité est au creuset justificatoire de la mobilisation et de la participation habitante, puisque le terme d'acceptabilité est lui-même utilisé dans les ouvrages qui ont été étudiés. Au croisement des deux, s'il s'agit non pas de s'interroger sur l'acceptable, mais sur quel social se joue, le social est en fait le pur produit des espaces-temps, des découpages de la gouvernementalité. Alors du coup, ça c'est une démarche un peu en retrait, en surplomb, c'est une analyse secondaire de recherches qui ont été menées sur l'habitant ou de documents qui ont été produits sur le développement durable. Du coup, qu'est-ce qui ressort des ateliers territoriaux en eux-mêmes, c'est-à-dire des moments d'échange, de contact. Juste pour information descriptive, il y a eu 5 ateliers. Les 5 ateliers avaient des thèmes génériques d'impensée comme justification, comme intitulé. Alors celui de Lyon, le premier, était sur quelle nature de bien-être de et pour la vie durable, avec là-dedans un jeu sur nature. De quelle nature on parle et de quel bien-être on parle, considérant que il y aurait un impensé naturel du développement durable, mais de quelle nature parlons-nous? Et l'esthétisation des centres-villes, est-ce la totalité de la renaturalisation des espaces urbains? C'est quelque chose autour de ça. Deuxième, sur la question des modes de régulation, c'était avec une, les modes de régulation, les nouveaux modes de régulation et les normalisations qui sont en jeu derrière cette chose-là, pour s'apercevoir très rapidement qu'il y a une surenchère dans les modes de régulation, entre la multiplication des chartes, des codes de bonne conduite, l'articulation entre un PLUA, un PLUH, un SCOT, bien évidemment relié, mais aussi les agendas 21, etc. Il y a un empilement généralisé, et en fait, dans l'empilement, ce qui se joue derrière, c'est la dépolitisation. C'est-à-dire que les savoirs et les métiers vont accélérer, vont produire toujours plus de documents, parce qu'ils sentent bien que les élus n'ont pas véritablement de discours sur la chose, ou en tout cas ne se mettre pas en risque de construire un discours sur le développement durable. On parle bien des collectivités territoriales, là c'est pas le cas. Troisième atelier, autour des droits sociaux et des devoirs écologiques de et dans la vie durable, ça c'était à Tours, avec là une chose fort intéressante dans les espaces-temps, la question de la prospective, voilà. Puisqu'il s'agissait de voir surtout les devoirs écologiques. Les acteurs se situent surtout autour de l'orientation ou de l'organisation des bons comportements, des comportements vertueux. Donc dans les devoirs écologiques, il y avait énormément de justifications par une prospective savante, en fait. L'urgence commande d'adapter nos comportements maintenant. À partir de là, droits et devoirs, c'était plutôt des devoirs écologiques que des droits sociaux, et la question de l'espace-temps et de la flèche et de la prospective, des nouvelles formes de prospective, par l'énergie notamment, et les comportements énergétiques étaient au cœur. Le quatrième, sur la sobriété, transition socio-écologique de la vie durable, force est de constater que là, la sobriété a été une nouvelle fois rabattue sur les questions énergétiques, ça a été la sobriété énergétique, et pas des modes de vie éventuellement, et des modes d'action. Mais néanmoins, un débat sur les valeurs qui n'a pas été inintéressant, j'y reviendrai. Enfin, le dernier, puisque tous ont été traversés sans jamais véritablement que la question n'ait été posée et que véritablement il y avait un débat dédié autour de ça, le dernier atelier était sur les savoirs pertinents de, dans et pour la ville durable. Et la question des savoirs habitants, notamment. Qu'est-ce qu'il en ressort très rapidement sur justement la construction moderne du social par l'impensé habitant ou, grosso modo, son aplatissement. Premièrement, il y a trois types de figures, trois types d'attitudes relatives à l'habitant. Première, c'est une revendication, assumée pour certains, agir sans l'habitant. Puisque ce sont les élus, donc là on a des vieux partages entre savoir et pouvoir. Les acteurs territoriaux sont des experts professionnels de l'action urbaine, mais ils ne répondent que devant et de leurs élus. Ce sont les élus qui ont à s'exprimer au nom, pour et à l'adresse des habitants. Donc l'habitant, c'est en soi quelque chose qui ne rentre pas dans le logiciel, pas seulement l'expression des acteurs territoriaux. Donc deux exemples. À Lyon, par exemple, sur les liens urbains, c'était la nature et le bien-être. Il fallait recoudre, et il faut recoudre la ville par la nature. Il n'y a pas qu'à Lyon qu'on fait ça, mais c'est assez fréquent. La traduction concrète a été de réduire la place de la voiture. Mais comme il n'y a pas véritablement de reconsidération de ce qui fait social, et que l'habitant n'est pas convié à ce type de débat, de discussion, du coup, il y a eu un impensé, ou en tout cas quelque chose qui renvoie à des périmètres institutionnels, c'est que les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas accès à ces centres-villes, qui sont renaturés, comme couture ou comme forme de bien, posent la question des injustices environnementales qui se jouent derrière, ou tout simplement des inégalités sociales. Que fait-on des espaces limitrophes ou du périurbain? Voilà. Quelle nature pour ces espaces-là? Voilà quelque chose qui a un peu interpellé lorsqu'il y a eu discussion. Autre question, on ne définit pas quelle nature, de quelle nature on parle, d'où un certain nombre d'incompréhensions et de mécompréhensions. voilà un exemple. Deuxième exemple, à Béthune, c'était sur les outils de régulation, avec une multiplication des chartes et des référentiels en tout genre, qui tient l'habitant indéniablement à l'écart, car il est, puisqu'on a une reprise en main par l'expertise technique, il n'est pas qualifié techniquement pour lui-même être un acteur de la construction de l'outillage. Il est mu uniquement par son intérêt privé, chose que vous en avez déjà entendu. Dans ce cadre, là aussi, c'est l'élu qui représente l'habitant. Donc c'est l'élu qui, en validant ou en invalidant la surenchère outillère, va exprimer un point de vue habitant ou légitimer par le mandat qui est le sien de l'acceptabilité par l'habitant de cette surenchère de l'outillage technique. Deuxième figure, après agir sans l'habitant, il y a intégrer l'habitant comme cible passive qu'il conviendrait d'éduquer. Je caricature, mais de convaincre, de sensibiliser. Alors ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'atelier de Tours, notamment sur la question énergétique, hein, des comportements vertueux. Donc là, en l'occurrence, le SCOT facteur 4 à Tours, au cours duquel on s'aperçoit que l'habitant, via ses modes de vie, doit être pris en compte pour atteindre le facteur 4 en question. D'où l'organisation d'une enquête sociologique visant à étudier l'acceptabilité, le terme est employé, du scénario, d'un seul scénario, hein, c'est bien ça. L'enquête a montré que le scénario n'était pas acceptable. Les habitants ne peuvent pas se projeter dans un scénario qui leur est imposé, mais malgré tout, une prospective en a été tirée et le travail autour d'un SCOT facteur 4 continue. Deuxième exemple, atelier de Toulouse sur la sobriété énergétique. Qui pose indéniablement des questions larges, amples, sur la sobriété, bien évidemment. Il a été rabattu sur un problème essentiellement technique, sans questionner le modèle de développement et le modèle axiologique qui se joue derrière. Dans ce cadre, précisément, l'habitant doit être sensibilisé, raisonné, pour ne pas dire éduqué, vers une plus grande sobriété énergétique. Donc voilà deux exemples assez classiques de l'habitant qu'il faut intégrer, mais comme cible passive. Troisième figure, inviter l'habitant à participer, mais cette fois-ci dans un système expert qui est clairement verrouillé, ou en tout cas, le système expert a des positions établies. C'était des systèmes d'acteurs locaux qui ont l'habitude historique de travailler ensemble, pour la plupart d'entre eux. Donc là, on a deux exemples aussi. À Lyon, sur l'agence d'Urba, la question de la propreté, par exemple. L'individu, on parle d'individu comme ressource méthodologique dans le projet. Donc, il est invité à participer, mais au titre d'une figure du protocole d'enquête. C'est une ressource première, mais un individu statistique malgré tout. C'est une forme... d'autres formes d'aplatissement, de rabattement. Sa force de proposition n'est pas à l'ordre du protocole. Deuxième exemple, surtout, l'atelier conclusif, cette fois-ci sur les savoirs urbains, les savoirs habitants, a montré que, en fait, se renforçaient deux nouvelles formes d'expertise. Et là, il y a une dialectique, une unité des contraires. Pendant qu'il y a eu une reconnaissance, ou en tout cas un cheminement vers une expertise habitante, souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure, du local et de l'immédiat, il y a, dans le même temps, une expertise de la participation, les managements en partie prenante, les conseils, ou les bureaux conseils, cabinets conseils, qui sont là, en fait, pour médier les fameux savoirs habitants. Mais dans une logique qui leur est propre d'agence, de commande, et aussi dans un travail de codification et de tri visant à rendre... audibles les savoirs habitants auprès de leurs mandants, auprès de leurs commanditaires. Et c'est pour ça que c'est dialectique, c'est parce que ce qui est audible pour les mandataires ou pour les commanditaires, c'est que l'habitant soit expert du local et du média. Et on accélère comme ça. Ça ne vaut pas pour tous, mais ceux qui étaient là ce jour-là, Robin Delis et Technicité, il se trouve que par ailleurs, j'ai aussi un court instant de ma vie, néanmoins, travaillé avec Respublica ou CS Conseil, on retrouve des figures assez classiques de comment dire, l'usage qui est fait de la fameuse expertise habitante ou les fameux savoirs urbains de l'habitant. Bref, on retrouve de l'intérieur ce qu'on avait pu constater de l'extérieur, et c'est pas sous cet angle de l'intérieur, c'est-à-dire d'atelier, que, et sur la question de la construction du social et de l'habitant dedans et de ce qui est acceptable ou non acceptable, qu'on a une réelle valeur ajoutée en fait. Ça ne ressort pas véritablement des ateliers. Par moment, on a tourné en rond. Ce qui est par contre certain, c'est qu'il y a eu des petites incises. Et ces incises sont toujours intervenues dans le troisième tiers de l'atelier. Après, on va rentrer dans des choses essentielles. Après la pause, notamment. On a fait une pause entre 3 heures, on a resté 3 heures à discuter. Les langues se délient. C'est pas que la pause, hein, d'accord ? C'est aussi le fait qu'on a éclusé les allants de soi, les habitudes de la pensée. Que certains aussi... acteurs qui n'ont pas parlé jusque-là décident enfin de prendre la parole. Donc, dans le dernier tiers des ateliers, il y a toujours des choses qui émergent. Alors là, on pourrait en citer plusieurs exemples, mais il y a notamment la question des valeurs sur la sobriété à Toulouse, hein, c'est ça qui est apparu. Très intéressant. Une personne de l'agence d'urbanisme qui revendique le fait que la sobriété ne serait pas simplement technique et énergétique, mais c'est une question vive adressée aux valeurs même des professionnels de l'agence d'urbanisme. De quelle sobriété s'agit-il et comment œuvrer de l'intérieur à d'autres figures ou d'autres formes de la sobriété. On a eu quoi d'autre comme chose un peu émergente sur les...
L'engagement aussi professionnel,
aussi
à Toulouse.
Tout à fait. À Toulouse, il y a plus, c'est Toulouse. Il y a un effet de lieu, certainement.
Mais aussi le thème de la
sobriété. Sur les savoirs, s'il y a des choses aussi qui ont pu sortir... Complètement, sur la question expérience versus compétence. Donc, c'est-à-dire, plutôt de parler de compétences habitantes, qui renvoient beaucoup à des aptitudes qui sont elles-mêmes socialement construites, plutôt de parler d'expérience du lieu. Et aussi de revendiquer que dans l'expérience, on ne souhaite pas nécessairement s'impliquer, voilà, ou participer. Bref, c'est une autre figure, plus phénoménologique éventuellement, de ce que serait l'habitant et ses savoirs. Voilà. Et des petites choses qui émergent. Mais c'est pas en termes de contenu, fondamentalement, que, à mon avis, les choses ont été intéressantes. En tout cas, pour le séminaire d'aujourd'hui, ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. En fait, c'est plutôt sur le rapport du chercheur et plus largement de la construction de la diversité des connaissances et de leur légitimité. C'est le point un peu conclusif propos. Quelles pourraient être, je reprends des questions de l'appel et du texte liminaire du séminaire, quels peuvent être alors les rôles des chercheurs et les objectifs qu'ils se donnent? Dans quelle mesure la question de l'instrumentation de ces recherches ne se pose-t-elle pas plus fortement dans le développement durable que dans d'autres domaines? Donc c'est un retour sur dispositif. Et là, il y a en fait, on était dans un entre-deux. Il y a indéniablement toute une série de blocages pour construire ou déconstruire, parce qu'en fait, je caricature, hein, mais chacune des polarités de personnes, et j'exagère, hein, entre d'un côté les acteurs territoriaux et de l'autre les membres du groupement scientifique. Chacune de ces deux polarités est venue avec ses propres représentations de ce que serait la connaissance, et certainement sa propre légitimité à parler au nom d'une forme d'expertise. Donc du coup, et c'est là où 3 heures ne suffisent pas, bien évidemment, de ce côté-là, on a rebouclé un certain nombre de blocages, un certain nombre par les uns de soi, un certain nombre d'habitudes de penser et de faire, qui renvoient quand même beaucoup aux positions institutionnelles et légitimaires des acteurs et des chercheurs. Par moments, parenthèse, c'était assez tendu, et ça donnait lieu un peu à la question qui en sait le plus, fondamentalement. Donc il y avait bien là une complication, mais un peu avortée, de différentes formes d'expertise qui se sont construites dans l'unicité, c'est-à-dire les sachants versus ceux qui ne sauraient pas, et qui ont du mal à construire l'idée d'une pluralité des savoirs, point 1, et 2, d'espace d'hésitation, de complication. Le pluriel n'a pas été entendu. Il y a eu plutôt quelque chose de bilatéral qui s'est joué, par moments assez gênant quand même pour la dynamique et la discussion. En fait, les blocages ont directement posé la question de l'acceptabilité même de la recherche, comme, alors, autre que dans une production extérieure, hein, la livraison d'un rapport, une commande publique, donc la recherche dans le débat. La question directe qui a été posée, c'est en fait de quelle est l'acceptabilité de la recherche à parler autrement des habitants. C'est pas au nom des habitants, mais des habitants. Il y a une mise en abîme, en fait, qui se joue dans le lien entre habitants et experts. Experts au sens expert professionnel ou expert scientifique. Qui est le plus légitime pour parler, selon les trois figures, c'était les acteurs, et pour les chercheurs, par moment, ou souvent, on retrouve ces trois mêmes figures. Soit mettre de côté, soit parler au nom d'eux, soit alors instrumentaliser. Donc, on a là, en fait, ce qui se joue comme facteur de blocage, c'est pas tant derrière l'acceptabilité sociale, c'est l'acceptabilité de la science ou des sciences du social. Enfin, pour les acteurs et les praticiens, c'est ça qui se joue fondamentalement, et c'est pas sans lien avec certaines commandes publiques qui visent à instrumentaliser certaines sciences sociales pour rendre acceptable. On a cette distance-là qui a traversé indéniablement les liens entre savoir et pouvoir, pour faire très générique, lors des ateliers. Et qui redouble savoir et pouvoir, qui est une dualité de la modernité, qui renvoie à l'ontologie entre nature et culture. On a quelque chose qui s'est joué aussi entre nature et culture, fondamentalement derrière ça. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un rapport de force ou une rivalité. Fondamentalement, il y a des grands partages qui, en 3 heures, ne peuvent pas être mis à plat et éventuellement enjambés. C'est impensable, mais néanmoins, clairement, ostensiblement discutés. Et du coup, derrière la nature, les formes de la nature, les types de rapports à la culture, on a eu redoublement, voilà, des grands partages. Alors toutefois, je termine là-dessus, il y a eu quand même, de notre point de vue, non pas création d'espace d'hésitation ou de complication, ça voudrait dire qu'on revendique le pluriel, qu'on le reconnaît, ça fait des cas, mais indéniablement, pour reprendre les termes d'Isabelle Stengers, un espace de bégaiement des assurances. Il y a eu quelque chose, alors plutôt vers la fin, plutôt le troisième tiers, plutôt après la pause, enfin tout ce que je disais tout à l'heure, il y a eu là, autour de qui sait, qui a raison, qui détient la raison, quelque chose qui, très modestement, en fin d'atelier, a ressemblé à une forme de co-construction de certains types de savoir, en faisant bélier quelques assurances. En fait, le dispositif nous a semblé vers la fin finalement s'écarter des asymétries de l'acceptabilité, parce que l'acceptabilité perpétue les asymétries. Hein. Qui doit accepter? Qu'est-ce qu'on rend acceptable? De quoi parle-t-on? Etc. En fait, il nous a semblé que le dispositif a permis non pas d'égaliser les rapports entre acteurs et chercheurs, ce n'était pas le but du jeu, mais a commencé modestement à construire du sens commun, à bâtir ou à un peu relativiser la symétrie fondamentale qui se joue derrière le terme même d'acceptabilité sociale. Et là, indéniablement, le fait que l'habitant ait été en arrière-plan, jamais véritablement dit, à l'exception de dernier atelier, a participé de ça. Il était trop prématuré que de mettre l'habitant et la construction sociale de l'habitant et la conception de chacun en eux, il était prématuré de le mettre au cœur du débat. Ça aurait bloqué encore plus fondamentalement les rapports entre différentes formes d'expertise qui, peu ou prou, parlent toujours au nom d'eux ou à la place d'eux. Le fait que ça n'ait pas vraiment émergé a été finalement un facteur de facilitation d'une émergence à la fin qui était plutôt celle d'une co-construction éventuelle de savoir. Dernier point, ce que ça a surtout permis, au-delà de la co-construction d'un sens commun, c'est un peu exagéré pour la réalité, c'est de poser clairement, et alors là par contre c'est apparu, le terme est apparu, l'idée de la réflexivité. De remettre, et c'est là où certaines personnes sur les valeurs, sur les savoirs d'expérience, etc., certains acteurs se sont saisis du terme ou ont le même spontanément employé. Le dispositif, on n'a pas fait d'enquête d'évaluation ex post, hein, mais le dispositif aurait indéniablement permis de construire, pour certains individus isolés, enfin isolés, situés, mais ce n'est pas un mot d'ordre général, poser autrement la question de la réflexivité sur les pratiques professionnelles. Notamment via la prise en compte d'autres savoirs, prendre en compte est certainement un peu exagéré, mais en fait, entendre le fait qu'il y aurait éventuellement d'autres conceptions de l'habitant. Si je résume, le dispositif a fait prendre conscience à certains acteurs que certains de leurs collègues, sans jamais que le sujet ait été placé au cœur, avaient éventuellement d'autres conceptions de l'habitant. Et finalement, l'habitant a été la pierre de touche pour la réflexivité modeste, que ce soit de contenu, mais surtout du rapport à la production de sens, de connaissance, enfin de sens commun et de connaissance.